Musique ancienne en la cathédrale de Dijon ce vendredi à 20h avec l'ensemble Gilles Binchois. On est avec Dominique Vélard. Voici Dominique Vélard, un concert de Noël pas tout à fait correspondant à ce qu'on attend dans une période de Noël avec ces points de passage obligés que sont les chants cantiques et autres chansons populaires.
Alors en fait, oui, ça s'inscrit dans... on va interpréter des chants tirés d'un office de la circoncision qui était produit à la cathédrale du Puy, mais en fait ça fait partie toutes ces des festivités qui se trouvaient entre Noël et le premier de l'an dans toutes les grandes églises et dans toutes les cathédrales, parce que c'était un moment où la liturgie est la plus riche et la plus joyeuse, la plus contrastée. Certaines de ces fêtes entre le 25 décembre et le 1er janvier étaient plus ou moins mises en valeur. Et au Puy, c'était en effet l'office de la circoncision du Seigneur, qui est un office qui commence le dernier jour de l'année et qui finit à la fin du premier jour du suivant.
Deux précisions, une géographique, lorsque vous dites le Puy, c'est le Puy en Velay, donc en Haute-Loire. Et puis autre oui. Précision, la fête était bien une fête catholique. Alors je dis était parce que Paul VI a décidé de la retirer du calendrier en 1974.
Oui, tout à fait, c'était une fête très importante. Et en fait, la réputation du Puy venait justement de cette fête. En fait, le Puy en Velay était un lieu de pèlerinage, justement à cause de la relique du prépuce de Jésus. Et donc c'était un lieu très 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 riche et très très important dans la chrétienté, aussi pour aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle.
Musique, un concert que vous allez donner à six voix masculines sans instrument.
En fait, on a deux éditions du XVIe siècle de cet office. Ces deux éditions témoignent de toute la musique et de tout le contexte aussi. C'est incroyable parce qu'on a à peu près 20 heures de musique avec tous les détails, c'est-à-dire toutes les processions, tous les déplacements. Il y a des fresques du XIIe, qu'est-ce qu'on chantait, à quel moment et tout ça. Donc, c'est vraiment un document tout à fait exceptionnel et qui pour un musicien est merveilleux, pour un musicien de musique ancienne, parce qu'en fait il comporte des versions qui sont très bonnes du vieux chant, du vieux fond grégorien, c'est-à-dire le chant vraiment, la première musique notée de l'Occident savant, donc tout le chant de la messe et des offices, mais aussi des nouvelles compositions, ce qu'on a appelé Nova Cantica, les nouvelles compositions du XIIe siècle. Et même si l'édition est du XVIe, c'est dans les meilleures versions et textuelles et médiques de ces compositions. Et puis, quelques polyphonies, dont une vingtaine de faux bourdons du XVIe, qui sont d'une très grande beauté. On ne connaît pas le compositeur de ces faux bourdons, mais c'est vraiment une qualité excellente. On parlera peut-être des faux bourdons un petit peu après.
Vous nous parlez des précisions quant à ce qui doit être chanté, à quel moment et devant quelle représentation. Mais pour le musicien, est-ce que vous avez vraiment une partition très balisée, comme on va la pratiquer plus tard, ou est-ce que vous devez encore interpréter beaucoup ?
Il n'y a aucune difficulté à lire et c'est très très bien noté. C'est un témoignage vraiment assez unique pour nous. La transcription des pièces est excellente Et c'est un office qui était tellement réputé. En fait, c'est un office qui a dû exister du XIIe siècle, poursuivi jusqu'au XVIIIe. Donc c'est vraiment une tradition très ancrée. Et on a la chance d'avoir ces deux manuscrits qui sont assez proches. Il y a des petites différences parfois, mais ils sont excessivement bien notés. Donc c'est absolument... On n'a pas de souci de restitution.
Programme donc qui va nous emmener de la pratique grégorienne à la polyphonie.
Avec beaucoup de diversité. Ça me fait toujours un peu rire parce que les gens du 21e siècle, ils pensent souvent que ces liturgies sont un petit peu austères et un petit peu ennuyeux pour dire. Alors que les musiciens et bon, tout le corps ecclésial, en fait, mettait tout en service pour vraiment faire une grande fête, quoi. Il y a vraiment, donc il y avait sûrement les enfants, il y a des écoles de chantres là-bas, il y avait des prêtres, il y avait tous les chantres de la cathédrale pour faire un office vraiment d'une énorme festivité, quoi. C'était vraiment un office qui était fait pour se réjouir. Et donc, pour un musicien, c'est aussi la musique est très joyeuse et très, très puissante.
Fête abandonnée par l'Église catholique, on le disait il y a quelques minutes, et pour autant, on y retrouve la tradition de Noël.
Bien sûr. Oui, alors là, en fait, il ratisse très large au point de vue du répertoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces... des psaumes, des pièces qui sont très importantes. Dans l'extrait qu'on entendra, par exemple, c'est le cantique de Siméon. Et en fait, on utilise beaucoup de chants à la Vierge, beaucoup d'antiennes à la Vierge, de répons. On utilise aussi tout le répertoire aussi de la messe de Noël, par exemple. Pour le concert, on va justement faire des extraits de la messe. Et il y a beaucoup de pièces qui sont, le Pouer, par exemple, Pouer d'Athouzès, c'est dedans. Il y a beaucoup de pièces qui sont tirées directement de la messe de Noël. Et puis on fera des pièces aussi des matines, enfin de l'office de la nuit. On prend tous les textes les plus puissants, les plus connus, pour accentuer ce côté festif, la cérémonie.
Oh.
Dominique Vélard, faisons un tout petit peu de technique, sans aller trop loin. Vous nous avez parlé tout à l'heure de faux bourdon.
Le faux bourdon, c'est une façon simple d'harmoniser le plein chant. Ce sont des polyphonies qui étaient très souvent composées mentalement, c'est-à-dire qu'on a le chant grégorien sur le livre, des notes carrées en général, et puis à partir de ça, on compose une autre voix, une troisième, une quatrième. Dès le XVIe siècle, on a une forme comme ça du faux bourdon qui va se poursuivre même jusqu'au XXe siècle. Enfin, c'est une musique qui est syllabique, c'est-à-dire à partir du chant grégorien, on compose des mélodies, mais on prononce tout le monde prononçant le texte en même temps, avec un contrepoint assez simple en général, qui fait que l'assemblée et le public en général a toujours adoré ce style. Une harmonie très pleine, très riche, mais en fait aussi très facile à écouter. C'est une chose qui avait un peu disparu parce que dans la réinterprétation, parce qu'on avait peu de sources. Alors on a eu la chance, nous, Benchois, d'avoir accès à un travail énorme qu'a fait un musicologue allemand qui s'appelle Wolf Hart, qui est un grand ami, et qui a fait un travail énorme sur ce set office.
Et puisque vous parlez de la possibilité de bénéficier du savoir d'un musicologue, et bien justement, avant le concert, donc le concert est à 20h à Saint-Bénis, à Dijon, vous donnez rendez-vous avec un complice habituel de l'ensemble Gilles Benchois, dès 19h, qui est Jean-Christophe Marty.
Oui, alors ça, c'est une chose qui nous intéresse beaucoup, on le fait au maximum, c'est que pour que les gens soient vraiment, justement, un petit peu dans ce que je raconte maintenant aussi, qu'ils soient vraiment dans l'ambiance et puis qu'ils puissent goûter à fond toutes les finesses et puis la force de ces répertoires. En fait, Jean-Christophe donc présente certains des aspects et puis l'ensemble donne des exemples pour vraiment se préparer à goûter au maximum ce beau répertoire.
L'ensemble Gilles Benchois en concert à la cathédrale Saint-Bénit de Dijon. Il faut en profiter parce qu'il y a un moment que ça n'est pas arrivé, du moins dans ce lieu-là. C'est ce vendredi à 20h et donc conférence avec Jean-Christophe Marty dès 19h. On met les liens sur le site de BFC Classique.